Amen. Le pape en calotte ou en myrte, papa mobile et tapis rouge, en prière ou en sermon, balançant l'encensoir et serrant des mains, baiser aux enfants, signe de croix, bras en croix comme une rockstar, le pape à toute heure et sur tous les tons, stop ou encore. C'est tout le pays qui, ces derniers jours, sentait l'encens et le bénitier, ou du moins telle fut l'image donnée dans les médias, et rares, très rares, furent les voix dissonantes à se faire entendre. Combien de minutes pour l'association Remballe ton pape? Combien d'interviews de défenseurs de la laïcité tout court? Combien de reportages sur le ramadan? Combien d'adjectifs pour qualifier la foule qui s'est groupée samedi matin sur l'esplanade des Invalides? 260 000 était-il admiré la précision sans contestation aucune. En fait, le chiffre d'une bonne grosse manif réussie selon les syndicats. Et pourtant, je n'ai entendu à la télé que foule impressionnante, raz-de-marée de croyants ou peuple des catholiques. De même, mes confrères ont tous oublié, ou presque ces jours-ci, leur conditionnel. Le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette est chose avérée, à les croire, presque une page d'histoire. À part sur RFI, il faut le dire, nulle part je n'ai entendu le doute qui sied à la raison et à l'exactitude dans la grotte où, selon la vulgate catholique, la Vierge serait apparue à la bergère. Le conditionnel, que diable, et sans être mécréant, pardon très Saint-Père, mais la religion ne peut être l'ennemi de la grammaire. Ou alors, comment savoir si vous êtes du passé ou des passés? Vous êtes passé et reparti. Voilà l'actualité. Alléluia.
Culture vive, Pascal Paradis.
Est-il pour moi lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible qu'un studio d'enregistrement où, enfermé de toutes parts, encapitonné, devant le seul micro, je lis, à voix haute, sans effort de projection dans le médium, 2 ou 3 heures durant, les pages d'un livre.
Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
À vous croire, puisque c'est vous que l'on vient d'entendre, un studio de radio, c'est un peu comme une seconde maison. Vous êtes chez vous?
C'est une retraite, oui.
C'est une retraite?
C'est une retraite infiniment paisible où, en tant qu'acteur, je ne suis plus sous la dépendance de quiconque, sinon la dépendance du livre que je lis. Et la lecture étant un de mes plaisirs favoris, c'est un moment d'autonomie extrême et de dilution des affects, de tracas. Enfin, c'est un moment incorporel, comment dire, et que j'aime retrouver. Curieusement, j'aime beaucoup enregistrer des textes dans des périodes de surchauffe.
Alors, j'emploie plutôt le mot maison, mais dans votre histoire, quand on dit la maison, c'est la maison de Molière, puisque vous êtes sociétaire de la Comédie Française. Vous la considérez comme cela?
Oui.
Comme une maison, oui.
Comme une maison. Ah oui, c'est devenu une maison, oui.
Donc, Denis Podalydès de la Comédie Française, acteur et metteur en scène. Vous êtes aujourd'hui notre invité. En fait, on va parler beaucoup de théâtre, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle Voix off, qui est à la fois un autoportrait et un exercice d'admiration de tous ceux qui vous ont fait et qui ont fait ce que vous êtes. Est-ce que c'est à peu près ça?
C'est absolument ça. La collection de Colette Fellous propose des écrivains, des artistes de tout genre d'ailleurs, parce que c'est un autoportrait en texte et en image. Et c'est la règle du jeu. Et donc c'est un autoportrait. Et pour parler de moi, j'ai repensé d'ailleurs à une émission que j'avais faite pour France Culture qui s'appelait Ma Voix des Autres, où j'étais allé interroger des personnes de ma famille dans l'idée d'essayer de voir ce qui nous réunissait par la voix.
Mais en fait, vous racontez vous et les autres par la voix.
Oui.
Ça a une énorme importance, la voix.
Pour moi, comme c'est à la fois un corps et une absence de corps, c'est une présence-absence, c'est une sorte d'oxymore, en fait. Et je trouve ça fascinant. Et j'ai toujours aimé, curieusement, par exemple, dans les romans, les annotations du genre il parla d'une voix rauque, dit-il, d'une voix flûtée. Et parce que, en tant qu'acteur, ça me donnait un petit exercice. J'essayais, en lisant, de prendre la voix décrite.
Mais être comédien, c'est avoir une voix?
Oui, je crois aussi, oui.
Ou un corps.
On se souvient. Ben, pour moi, le corps, c'est une belle voix, une voix riche. C'est une voix où tout le corps est passé. C'est pas une voix forcément grave ou forcément. C'est une voix qui transmet toute la particularité de la personne. C'est le grain de la voix, comme disait Roland Barthes. Et quand la personne passe tout entière dans une voix, notamment au théâtre, où on sait qu'au théâtre, même si on joue d'ailleurs dans une petite salle, il y a une projection, une légère altération de la voix du médium, ça rend d'autant plus difficile l'exercice de faire passer tout son corps dans ce canal-là. Et quand ça se produit, je trouve ça prodigieux. Et il y a des accents de voix comme ça qui m'ont donné toute une personne entière.
Vous l'avez beaucoup travaillé, votre voix, Denis Podalydès, parce que dans ce livre, vous dites qu'au début, quand vous étiez jeune homme, vous aviez une voix un peu pet-sec.
C'est François Florent qui m'avait dit ça. Ne sois pas un André Dusselier pet-sec. Je crois que j'avais une voix saccadée, pleine de réticences, de petites angoisses, d'un manque de confiance totale qui me faisait percher la voix dans le masque et me faisait découper. Je n'avais pas ni de longue ni de brève. Toutes mes syllabes n'étaient que des brèves. Et je pense que c'était un trait familial, ça, quand on s'énerve dans ma famille, le ton monte dans le masque et la voix devient nasillarde, perchée, et ce qui affecte un peu l'autorité. Et je ne sais pas si je l'ai travaillé, toujours est-il qu'avec le temps, je pense que c'est la répétition des représentations, des rôles, etc. Mais j'ai pas fait d'exercice, je ne me souviens pas d'exercices vocaux particuliers.
En même temps, j'ai l'impression que vous avez une très grande souplesse de voix. Vous avez des talents d'imitateur, vous le disiez à l'instant, quand vous essayez de faire la voix rock qu'un auteur vous désigne dans une pièce de théâtre ou dans un roman, mais vous avez aussi des talents d'imitateur à capter, à reproduire les voix que vous entendez à tout moment, et ça dès l'enfance, je crois, non ?
Oui, ça dès l'enfance. Je raconte dans un des textes comment j'avais saisi la voix du propriétaire de la maison que nous louions pour les vacances, et c'était un Autrichien, et il avait une façon très particulière de terminer ses phrases avec un petit hu-hu. Et j'avais repéré ce petit hu-hu, et j'avais fait un tabac auprès de ma mère, et puis de mes frères, de mon père, et j'étais ravi de ça. Alors après, je m'essayais. Mais j'imite beaucoup mieux les voix de gens de mon entourage que des voix officiellement connues. Donc je ferais un bide si je faisais un spectacle avec ça, évidemment.
En tout cas, la preuve dans le disque, puisque ce livre est accompagné d'un disque avec, on va en parler, vos imitations.
Voix de l'humour de Monsieur Geoffroy, professeur de lettres. Voix d'oiseau picorant de Monsieur Martin, professeur de philosophie. Bon, je déteste. Alors là, je déteste. Vos gueules. Les bonnes femmes, hein. Alors, vous connaissez le mot je crois que c'est ce que c'est. Ah, merde, ça va me revenir. Enfin bref, quoi. Hein, vos gueules. Hein. Là, voilà. Il dit un jour ce grand mot qui me frappe. Oui, alors, écoutez, là, vos gueules, l'amour a cela de commun avec le crime. Après, que faire du corps ?
Denis Podalydès, vous pourriez faire un spectacle comique, quoi. En écoutant ça, c'est assez drôle.
Non,
ça,
oui, je trouve que j'imite pas mal Monsieur Martin. J'espère qu'il est encore de ce monde. Je n'ai pas de ses nouvelles, mais je trouve que je l'imite pas mal.
C'est bien ça. Est-ce que ce qu'on entend là dans ce disque qui accompagne donc votre livre Voix Off est un enregistrement que vous avez fait récemment ou vous avez retrouvé les vieux enregistrements que vous faisiez sur vos petites cassettes quand vous étiez plus jeune ?
Ah, il y a les deux.
Ces
enregistrements qui sont des textes, ils sont des enregistrements de textes qui étaient encore des brouillons, ce qui fait que dans le CD, les textes lus ne coïncident pas forcément avec les textes qui sont dans le livre. Et d'autres, oui, j'ai repris des enregistrements que nous faisions avec mon frère. On avait enregistré une bande-son pour Blanche-Neige et Robin des Bois. J'ai retrouvé des brouillons parce que je travaillais à une certaine époque, je le fais moins, mais avec un magnéto. Et je mettais ce magnéto quelquefois, même en salle de répétition, je venais avant les autres ou je restais après, et ensuite je réécoutais pour déceler ce qui n'allait pas. C'est un exercice quelquefois assez cruel d'ailleurs.
Et vous avez la voix de Sidney Chaston par exemple?
Je sais que c'était une voix de ce que l'on parle, une voix de doublage. C'était ces voix très marquées, vous savez, par dans les westerns, oui, vous avez une certaine façon de parler comme ça. Il y a d'ailleurs des acteurs que j'ai identifiés beaucoup plus tard qui étaient des acteurs de doublage. Alors c'était une voix...
Il y a des quiproquos assez étonnants d'ailleurs, parce que vous racontiez, je ne sais plus dans quelle représentation, que vous voyez un comédien qui faisait la voix de Babar.
Oui,
donc vous retrouvez
Jacques Siron. Dans le songe d'une nuit d'été, j'étais complètement sidéré d'entendre si je fermais les yeux, j'étais dans un dessin animé, je les rouvrais, j'étais dans Shakespeare.
Alors, si je vous parle de Sidney Chaston, c'est qu'en fait c'était votre double quand vous étiez enfant. Vous imaginiez être en haut de l'affiche sous le pseudo de Sidney Chaston et comédien hollywoodien.
Sans
aucun doute.
Hollywoodien et dans des films de John Ford.
Forcément. Donc ça c'est pour l'anecdote. Sinon ce livre, on parlait d'exercice d'admiration, il y a Barrault, il y a Michel Bouquet, il y a Gérard Philippe, il y a Villard, dont vous dites qu'il a réalisé un rêve de théâtre, c'est le théâtre populaire, le TNP, donc oui. Avignon et Chaillot ensuite. Gérard de Sarthe, Michel Hilhermoz, la Comédie Française, Éric Almosnino, Ludmila Michaël. En fait, beaucoup de comédiens, et pas tant que ça, si on regarde le nombre de comédiens aujourd'hui ou dans l'histoire du théâtre français récent. Est-ce que ce sont eux qui vous ont donné envie d'être acteur? Je parle de la génération d'avant vous, hein, pas de Almosnino, bien sûr.
Je me suis accroché à ces voix comme parfois des balises, des bouées, des fanaux, qui me donnaient des directions. Je sais que la voix de Jean Villard, par exemple, quand François Regnault me l'a fait découvrir, nous étions en répétition, c'était une révélation. J'ai eu une sorte de découvrir brutalement un pan gigantesque des possibilités d'une voix au théâtre, et de dire la tragédie notamment. Et à partir de là, c'est une voix qui m'a accompagné, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'écouter beaucoup, puis je l'ai imité, puis je l'ai traqué dans les autres aussi. Moi-même, en travaillant, je me laisse parfois, même si je ne fais plus ce que je faisais, c'était d'imiter directement un comédien qui m'avait plu et de jouer avec sa voix. Quand je lisais Proust, par exemple, en enregistrement, j'ai la voix de Dussolier qui chante derrière moi, qui parfois me parce que je l'aime tellement qu'elle pourrait m'entraver, mais en fait, j'en ai fait une sorte de résolution, et en fait, elle m'accompagne de manière plus protectrice, si je peux dire.
Dans ce livre, Denis Podalydès, il y a donc la voix des acteurs qu'on citait à l'instant, il y a aussi la voix des intimes, de la famille, de la mamie d'Alger et de celle de Versailles qui tenait une librairie, d'où je crois quand même l'importance des livres dans votre vie. Et puis, il y a la voix des frères. Cette formule revient comme ça tout au long du livre, comme une ponctuation, sans que vous en parliez vraiment, sans que vous racontiez vraiment la voix des frères.
Parce que j'ai jamais réussi à faire ce texte-là.
Quatre.
Oui, nous étions quatre. Il y en a un qui est disparu, il y a 10 ans. Et j'ai essayé de faire ce texte. Je mettais des vignettes comme ça, voix de Michel Bouquet, voix de M. Kutchera, voix de... Et je mettais le texte sous la vignette. Et celui-ci, je ne suis jamais arrivé à le faire, et sans doute parce que c'est le point aveugle, parce que c'est l'intime de l'intime, je me sens extraordinairement proche de mes trois frères, et que de dire leur voix, c'était comme regarder le soleil en face, je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose que je suis arrivé à faire pour mon frère disparu. La voix des morts, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'y suis arrivé, mais je n'ai pas pu, parce que aussi, d'ailleurs c'est assez vrai, on dit souvent à mon frère Laurent, mon frère Bruno, et à moi, qu'on a la même voix, qu'on est très proche, beaucoup plus proche par la voix que par le physique.
Mais si vous avez réussi à dire la voix du frère disparu, est-ce que c'est parce que vous citez Barthes, le deuil est vivant?
C'est probablement, oui, probablement ça.
Et faire entendre la voix en soi, est-ce que c'est faire vivre?
C'est y rêver, en tout cas. C'est aujourd'hui, on pourrait la voix de n'importe quel grand écrivain, on pourrait l'avoir, mais la voix d'un Proust, la voix d'un, ou même en remontant encore plus haut, d'un Molière, d'un Homère, et la voix de leur personnage. Mais en revanche, ça suscite un appel d'air, un rêve, et on rêve ça. On rêve la voix de son personnage, on rêve la voix de l'auteur. Alors ça crée du désir, en fait. Il me dit, quelle voix aurait ce personnage? C'est à partir du moment où j'ai joué Sartre, comme là je l'avais, sa voix. J'ai essayé de la prendre. Et on fait comme une imitation incarnée, enfin le plus possible, le moins possible imitation, le plus possible incarnation. Et je me suis dit, c'est intéressant, en fait, ce que font beaucoup les acteurs américains. Un acteur comme Daniel Day-Lewis, il change sa voix, il métamorphose sa voix quasiment à chaque rôle. C'est ce que nous faisons très peu, acteurs français. Et quand les acteurs le font, on le leur reproche. Je sais que Charles Denner, ça lui avait été reproché... pour, alors que c'est un film génial, dans Landru, il parle, il a changé sa voix. Moi, je l'ai fait d'une certaine manière aussi dans le film Liberté Oléron, qui est un film de mon frère que j'aime beaucoup, où j'ai pris quasiment la voix de mon père, en fait. Mais ça m'a été un peu reproché. Ça, on a l'impression que c'est une sorte de cabotinage ou de composition surfaite.
Voix de Roland Barthes. Le jour est lent à mourir par les soirs démesurés de l'été. Il faut noter que dans cette...
L'angoisse de délicatesse, une voix qui découpe les masses, ou plutôt les ensembles signifiants, en haïku. Le cours au Collège de France. Voix de Monsieur Kutschera. Voix de mes frères. Voix de Renato Bianchi. Voix de Nicolas Silbert. Voix de mes cousins. Voix étrange de mon neveu dans Liberté Oléron.
Vous faites les pétons, hein?
Voix d'Éric Elmosnini.
Quoi, les pétons? Oui, les pétons, là, il y a deux têtes de pétons, là. Là.
Oui.
Hein? Là, il y a deux têtes de pétons qui... Alors, vous voyez, ça peut riper sur le croc, hein?
Oui, enfin, je vois pas du tout, là, mais quand je suis en pleine mer, moi, vos pétons, ils sont où? Qu'est-ce que je fais?
Là, faudrait tout démonter, là. Vous pensez, là, ils sont en dessous, le croc, là. Ça, c'est tout petit, mais ça suffit, hein?
Voix de mon parrain.
Alors, dans ton lycée, est-ce qu'il y a du sexisme?
Denis Podalydès, vous mettez en scène à partir de la fin de la semaine Fantasio. Alors vous parlez beaucoup de ce livre Voix Off, et en même temps vous êtes beaucoup à la Comédie Française pour mettre en scène donc cette pièce de Musset, qui est une comédie, certains disent une féerie, où un jeune dandy poète décide de prendre la place du bouffon du roi. Quand vous mettez en scène une pièce comme celle-là, est-ce que vous entendez la voix de Musset?
Me touche beaucoup l'anecdote de son discours de réception à l'Académie Française, où il a parlé d'une voix absolument blanche, en ânonnant. Il a ennuyé tout le monde, les gens étaient sidérés de tant de vide. Je pense qu'il devait avoir une voix assez faible. Et ce seul fait-là me touche beaucoup.
Pourquoi?
Parce que je n'aime rien tant chez Musset que sa faiblesse. Le fait qu'il n'ait pas accompli tout à fait son œuvre. Cette mélancolie, en fait, qui est l'envers de cette faiblesse, elle m'a toujours beaucoup touché. Sans doute, j'ai pu m'y reconnaître à une certaine époque, et je crois que beaucoup de gens se reconnaissent dans cette la liberté négative, la liberté qui fait qu'on oublie de se réveiller le matin, qui fait que, alors qu'on est en train de faire quelque chose, soudain on se voit le faire et on lâche. On décroche, voilà, les gens qui décrochent.
Denis Podalydès, on a parlé des acteurs, dans ce livre, dans votre livre, on entend aussi la voix des livres et l'importance que la lecture a pour vous. Vous dites à propos de Proust et au tout début du livre que vous avez ressenti le choc de l'exactitude en lisant Proust. Je trouve ça absolument magnifique de s'imaginer comme ça, être dans un rapport de choc et par rapport à la justesse des mots utilisés. Vous vivez entouré de livres, on le sait, tout le monde le sait, vous l'avez dit, vous promenez encore aujourd'hui avec un livre, vous avez 5 minutes, vous l'ouvrez, c'est un texte de Pierre Bergugno. Est-ce que être comédien, c'est avoir beaucoup lu? Est-ce que la lecture a un rapport avec le jeu?
Pour moi, absolument. Ça entretient le désir. Quand je commence à répéter, je lis l'œuvre, les autres œuvres de l'auteur, autour de l'auteur, et ça me donne par arborescence une quantité de livres à lire, quelquefois dont je ne fais jamais le compte et que je ne lis pas d'ailleurs. Quand je lis tout en répétant, ça me calme d'abord, ça me fait prendre de la distance. Et par exemple, mettre en scène, pour moi, est absolument de l'ordre de la lecture, d'ailleurs. De la lecture et de la relecture, non seulement du texte, mais la lecture, lire les acteurs, essayer de déchiffrer ce qu'ils font. Tout ce travail-là de déchiffrement fait partie du travail théâtral et parfois permet de lui donner la bonne distance.
Donc vous ne diriez pas, comme le personnage de Musset, Fantasio, un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet?
J'adore cette phrase, justement. Elle est très importante pour moi dans le spectacle. C'est tout le naufrage de Musset qui est là. D'ailleurs, Spark lui dit, mais pourquoi n'écris-tu pas tout ce que tu rêves? Il lui propose ni plus ni moins d'inventer le surréalisme, et au lieu de s'y plonger, Musset dit, sonnet vaut mieux qu'un long poème, et un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet. Voilà. C'est toute la faille du personnage qui est là.
Merci Denis Podalydès. Voix off est édité au Mercure de France dans la collection 13 et portraits. Quant à Fantasio, on pourra voir votre mise en scène à la Comédie Française à partir du 18 septembre. Après le journal, on poursuit en plus bref le tour de l'actualité culturelle en France et dans le monde. Culture vive à suivre.